Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. Il est 11h, c'est l'heure de l'émission coproduite avec l'Office de tourisme communautaire de la DLVA, consacrée aujourd'hui à l'olivier et l'oléiculture. Et pour l'animer, j'accueille François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Il est bien plus qu'un arbre, symbole de paix et emblème de la Méditerranée. Depuis des siècles, l'olivier accompagne la vie des hommes de belle manière, en offrant ses fruits, son huile ou son bois, et de sa taille modeste comparée à d'autres espèces, il marque les espaces, notamment provençaux. Présent dans la mythologie, il est parfois la seule richesse de terres arides et inhospitalières, car travaillé par l'homme, l'olivier fournit des fruits immangeables, sans préparation, une huile aux nombreuses vertus, et des variétés en nombre. L'olivier est présent en Haute-Provence et après avoir été délaissé, il reprend de la vigueur et sa culture se développe à la manœuvre des cultivateurs et des scientifiques tous passionnés, mais aussi des chefs et restaurateurs inspirés dont les recettes et préparations comblent un public demandeur. Dans cette émission, nous donnerons la parole à tous ces acteurs agricoles, culinaires, économiques et scientifiques et nous verrons que l'olivier est une des premières richesses de la Haute-Provence. Bonne émission. Et j'accueille notre premier invité, Alain Roux, président du groupement des oléiculteurs de Haute-Provence et du Luberon. Bonjour Alain.
Bonjour.
L'olivier en Provence, on commence tout de suite comme ça, c'est une histoire de siècles, voire de millénaires.
Oui, puisque l'olivier est arrivé, disons, même avant les Romains, à l'époque des Grecs. Et on sait à peu près par où, je parle dans notre département où il est arrivé du côté de Ries, c'est pas par hasard, puisque Ries la Romaine, c'était le début, et après il s'est développé dans toute notre Basse-Provence.
Alors, l'olivier qui a failli disparaître en plus, hein, il faut le dire, on va en consacrer un bon moment dans cette émission, il a failli disparaître de notre environnement, notamment au XXe siècle dernier, sa culture a été délaissée en même temps que l'exode rural vidait les campagnes, et il y a eu un sursaut ces 30 ou 40 dernières années, on a soigné, on a planté, on s'est structuré, de nombreux moulins ont été créés, le public a été instruit et informé, c'est un véritable changement radical de situation.
Oui, c'est vrai, l'olivier, on parlerait d'avant la Deuxième Guerre, touchait à peu près que l'économie, je dirais, des paysannes. Et là, depuis 20 ans, ça s'est accéléré. Elle touche autant des gens qui vivent en ville. Nous, on le voit dans nos formations. On a des gens qui viennent de petits villages comme des grandes villes. Des gens qui viennent aussi d'autres régions et d'autres pays, disons de l'Europe. Donc, on est toujours surpris de cette vitalité-là.
Où est-ce qu'on en est au niveau de la production en Haute-Provence ?
Alors, c'est vrai que la production a été aléatoire depuis 2 ans, et cette année, on est un peu au-dessus de la moyenne, si ce n'est même, je dirais, peut-être que je suis un peu pessimiste, bien au-dessus de la moyenne.
Combien on produit en gros de tonnes d'olives ou d'huile d'olive ?
Alors, ça c'est une question un peu vaste, oui, compliquée. Donc je pourrais vous citer le moulin que je connais bien, qui est le moulin de Manosque. La production a été l'année dernière de 200 tonnes. Cette année, on compte sur 500 tonnes. Et il y a 3 ans, on avait dépassé les 800 tonnes. On était arrivé, à 800 tonnes.
Pourquoi est-ce qu'il y a cette disparité entre les années ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ben, l'olivier, c'est pas un arbre qui produit, c'est pas constant, hein, disons. C'est déjà une variété de la glando ici qui est pas constante toutes les années. On est aussi c'est aléatoire par rapport aux saisons, au climat. Faut pas oublier aussi à la mouche qui peut nous attaquer, qui peut des fois faire beaucoup de mal. Voilà. Donc c'est vraiment une production aléatoire. C'est un gros problème par rapport à pour nos ventes où on ne peut pas assurer toutes les années une constante approvisionnement.
Le réchauffement climatique, c'est un problème pour l'olivier?
Non, puisque l'olivier, si le climat se réchauffe, on le cultivera de plus en plus. Les frontières seront repoussées. À ce jour, dans notre département, vous avez du côté de Digne, c'est la limite. Sisteron, c'est la limite. Et peut-être un jour, on aura des oliviers vers Gap. C'est peut-être imaginable.
Ça peut aller jusqu'à Lyon ?
Ça sera un peu plus long.
On va attendre. Pour l'instant, on va se cantonner à notre territoire ici, dans la Durance, Luberon-Verdon agglomération. Est-ce qu'une partie, Alain Roux, de notre production s'exporte ?
Disons exporté. Alors, on peut le voir de différentes façons. C'est surtout vendu sur place. Notre clientèle est, je dirais, de gens qui viennent en vacances. Et c'est vendu presque tout sur place. Ça ne se porte pas dans les pays comme l'Italie et l'Espagne, puisque c'est même l'inverse. On a une production très limitée d'huile en France.
Alors, on vous compte, Alain Roux, parmi les passionnés et acteurs du renouveau de l'oléiculture, et comme beaucoup de vos amis, vous militez, et le mot est juste, pour la culture et la valorisation de l'olivier. Comment est-ce qu'on devient oléiculteur ?
Ah, ça c'est une bonne question. Je pourrais répondre pour mon cas. C'est par mariage, vous voyez, des fois, la vie est simple. Moi, je viens de l'autre vallée du Verdon, donc il n'y a pas d'olivier, et c'est par mariage que je me suis mis à l'olivier. Mais après, on peut rencontrer des amoureux, ça veut dire que c'est des gens qui viennent des villes, ça peut être des gens qui leurs parents avaient déjà des oliviers. Là, il y a rien qui est bien précis.
Et donc, on peut, c'est pas très compliqué de devenir oléiculteur. Est-ce qu'il faut des connaissances sur la nature, sur la culture ?
Ah bah écoutez, non, c'est pas compliqué, surtout que maintenant le groupement dont je fais partie, je suis le président, on fait des formations, on aide beaucoup le monde oléicole. Une personne qui veut se lancer, c'est pas compliqué. Il faut qu'elle suive un peu des stages, que ça dépend aussi de ce qu'on veut obtenir, hein. Si on veut en avoir deux oliviers ou si on veut en avoir un peu plus, avoir une production qui soit un peu plus constante. Mais on est là pour aider. Donc c'est pas compliqué du tout.
Vous avez parlé justement des stages qui sont organisés, notamment avec Alex Siciliano depuis déjà des années sur ce territoire. Ce sont des stages qui sont ouverts, qui sont utilisés par le grand public.
Oui, c'est souvent très utilisé par le grand public. C'est très varié. Ça peut être de la comment tailler les oliviers, comment greffer les oliviers, comment les entretenir, comment lutter contre les maladies, les ravageurs.
Parce qu'un olivier, ça s'entretient. On a tendance à l'oublier.
Oui, c'est vrai, ça s'entretient et on a toujours tendance un peu à les délaisser. On dit toujours ce proverbe, un olivier n'est pas rancunier. Même si vous l'abandonnez, le jour où vous allez le retravailler, il va donner de nouveau des fruits et des olives. Donc ça veut dire que c'est un arbre qui est facilement à entretenir. Moi, je fais l'expérience, je récupère des oliviers qui sont dans la forêt, surmontés par des chênes, et ben je les retaille, je les libère, disons, des arbres qui les enserrent. Et là, au bout de quelques années, on a des olives. C'est pour vous dire que c'est pas compliqué à le rendre producteur.
Mais il faut bien tailler aussi ces oliviers et puis faire attention aussi à l'endroit où on met les rameaux d'oliviers qu'on a coupés, qu'on a taillés.
Oui, c'est vrai. Là, il faut faire très attention, il faut les éliminer. Ça, c'est préconisé.
Et utiliser les déchetteries dans ce cadre-là aussi.
Ou les broyer.
Pour les déchets verts, ou les broyer, effectivement. Ouais. Alain Roux, le groupement a-t-il des projets ?
On a toujours des projets. C'est vrai
bien.
qu'on existe depuis 1996. Je rappelle toujours que c'est une association qui a été créée par un certain nombre de postiers suite au feu qu'il y avait eu sur le Mont d'Or où tout avait disparu, les arbres, les oliviers. Là, ça fait redistribuer les terres, ça a été repris en main et de là est parti le groupement des oléiculteurs. Alors des projets à venir, ce sont peut-être des livres. On est toujours là présent pour toutes les fêtes, on est là pour former les gens. Comme je le rappelais déjà, la taille, tout ce qui touche à l'olivier.
Avec également des amendements, on peut traiter un olivier et lui apporter, par exemple, des engrais naturels.
Sans problème. Hein. Donc, ça veut dire déjà le travailler, le labourer, donner des engrais naturels. Sans
L'arroser
problème.
Aussi.
L'arroser, c'est un plus quand on peut.
Quand on peut. Alors, on reviendra avec vous, Alain, sur le cheminement du groupement des oléiculteurs et puis votre engagement vous-même. On va écouter notre première interview, et on va aller déjà dans un outil essentiel pour la transformation des olives, c'est le moulin. Le moulin qui est un maillon économique important. Nous allons nous rendre dans deux établissements du territoire, à Valensole et Oraison, avec deux démarches un peu différentes, mais toutes deux vont dans la même direction. Le moulin Henri Paschetta est sur la commune d'Oraison. Notre ami Olivier Mouly y a interviewé Virginie Henry, digne descendante d'une lignée de mouliniers basalpins.
Virginie Henry, nous sommes chez vous aujourd'hui au moulin d'Oraison. Oui, alors c'est nos arrière-grands-parents, puisqu'il y a mon frère et moi-même, donc nos arrière-grands-parents. Après, il y a eu nos grands-parents, du côté de notre papa, nos parents, et maintenant c'est mon frère et moi-même qui prenons la relève.
Une entreprise familiale, je suppose qu'il y a une fierté.
Franchement, oui, on est plutôt contents. On espère faire aussi bien ce qu'ils ont tous fait bien, en fait. On va essayer de poursuivre dans la même lignée.
Vous avez un moulin, c'est ça?
Oui, alors on a le moulin d'Oraison, qui est là depuis à peu près 1922. Il y a le moulin où on fabrique, et à côté, il y a la boutique. Et le moulin est juste derrière. Et on a notre moulin qui est à Perruy, où là, on a le moulin à huile, donc on fabrique une boutique et également une savonnerie.
Ces moulins sont des moulins anciens, des moulins en pierre?
Non, ce sont des moulins modernes avec ce qu'on appelle la chaîne continue, le procédé mécanique. Avant, oui, c'était des presses. Maintenant, depuis 20-25 ans, on a changé. Avant, à l'époque, oui, quand il est installé ici, dans les années 20, il est devenu de suite électrique, mais il y avait quand même les vieilles meules de pierre. Chaque année, les machines sont démontées, lavées, stockées pour préparer l'année suivante où elles sont de nouveau remontées. L'objectif étant de garder un matériel qui fonctionne, qui soit efficace et que l'on n'ait pas de mauvaises surprises, surtout quand on fait les essais. On broie les olives avec un broyeur à marteau, toujours avec le noyau évidemment. Après, elles sont malaxées et après, on les envoie dans un décanteur qui remplace maintenant les presses. Et dans ce décanteur, après, on transfère dans les centrifugeuses pour séparer l'eau de l'huile, puisqu'il y a plus d'eau que d'huile dans une olive.
Vous avez du terrain avec des oliviers?
Alors, on achète les olives aux oliculteurs des environs. Donc nous, on a à peu près 200 pieds d'oliviers, mais on s'en sert essentiellement à faire des olives de table et la tapenade. Tout le reste, ce sont des olives que l'on achète à des privés ou à des agriculteurs du département. On achète les olives et après on vend l'huile. Et on fait également des personnes qui veulent leur propre huile, minimum 150 kg d'olives, on leur fait leur propre huile. Et après, les autres olives, on les met en commun et les gens viennent tout au long de l'année récupérer leur huile d'olive.
Et ça représente combien de producteurs?
Franchement, je n'ai pas les chiffres en tête. Il peut y avoir plusieurs centaines d'oliculteurs qui apportent leurs olives. Ça peut aller de la personne qui a un olivier dans son jardin, qui va amener 5, 10, 15, 20, 30 kilos, à une personne qui en amènera plusieurs tonnes. On a une production qui est toujours plus ou moins constante. Après, ça dépend des années, évidemment. Quand il y a la mouche de l'olive, ben là, évidemment, on perd quand même pas mal de production, ce qui s'est passé l'an dernier. 2018-2019, on a eu une fabuleuse récolte. 2019-2020, très faible récolte due à la mouche de l'olive. Et là, cette année, ça va être la surprise. Ça a l'air d'être un peu mieux, mais on attend qu'elle soit dans le moulin pour être sûr du coup.
La plupart de la production est bio ou pas du tout?
On n'a pas l'huile bio, puisqu'on achète les olives aux oléiculteurs et c'est à eux de faire à la limite les démarches de bio. On ne peut pas les contraindre, et ce que je comprends tout à fait. En général, elles sont peu traitées. Par contre, on fait de l'huile bio pour des agriculteurs. On a le label pour faire de l'huile bio, mais l'huile que l'on vend n'est pas bio.
C'est l'agriculteur raisonné?
Oui, en général, oui. Ouais. Il n'y a pas trop de traitement.
Le type d'huile que vous produisez?
On n'en a qu'une seule. Elle est fabriquée ici avec des olives du département. La variété dominante ici, c'est la Glando. C'est quand même une huile qui est un peu forte, qui a quand même du goût. Mais on n'en a qu'une seule. On ne fait pas de distinction entre le fruité vert, le fruité mûr, le fruité noir. On ne le fait pas. Depuis quelques années, on est en travaux à l'entrée du village. Nous avons basculé les machines d'Oraison à l'entrée du village d'Oraison. Donc on change le lieu de production. Donc pour cette année, ce sera l'entrée du village. Là, dans le vieux moulin, on garde juste la boutique. Ça, c'est un gros, gros projet. Je crois qu'il est pas mal. On va essayer de le finir correctement. Et puis on verra pour les prochains.
Est-ce que vous êtes en GAEC?
Non, nous sommes un moulin privé. Et comme nous fabriquons du savon et des cosmétiques, nous sommes sous le régime de la chimie. Mais nous sommes un moulin privé.
Votre saison débute très prochainement?
Oui, pour Perruy, ce sera le 12 novembre, ça c'est sûr. Pour le moulin d'Oraison, comme nous sommes toujours en plein de travaux, on va faire les essais, puisqu'on ne peut pas faire venir nos clients si on n'a pas testé les machines. Donc ce sera courant novembre, et on fait au mieux, au plus vite, au plus efficace, et on préviendra nos clients.
Si on souhaite venir vous acheter de l'huile, où est-ce qu'on peut se rendre?
Au moulin d'Oraison, dans le village, et au moulin de Perruy. On a un site internet également, moulinpasqueta-henri.fr.
Une autre dynamique, le moulin Bonaventure est installé à Valensole. Il a été créé plus récemment par des néo-ruraux, cette population venue s'installer en Haute-Provence dans les années 60 pour vivre de la terre notamment. On peut dire aujourd'hui que ces personnes, quelque part, ont contribué à sauver l'agriculture locale et l'exemple de l'AOC du fromage de Bainon ne me contredira pas. Aujourd'hui, la troisième génération des néo-ruraux tient les rênes. C'est le cas de Paolo Chabot du moulin Bonaventure. Ce dernier détaille les différentes phases du traitement des olives.
Paolo Chabot, je suis fils et petit-fils d'agriculteurs sur le plateau de Valensole et je tiens la ferme familiale depuis 6 ans. C'est une ferme diversifiée, on va traiter à peu près toutes les productions principales provençales, que ce soit le miel, les huiles essentielles, les olives, le safran, les amandes et les céréales. Et on est sur une ferme 100% en agriculture biologique.
Aujourd'hui, nous voyons, pour ce qui concerne particulièrement l'olive, alors tout d'abord, vous avez un moulin. Qu'est-ce qu'un moulin ?
Un moulin, c'est des machines aujourd'hui qui sont à la pointe de la technologie. On n'est plus sur des machines avec des meules de pierre et les presses à escourtin à l'ancienne. On est sur des moulins, on va dire, tout inox, et on fait ce qu'on appelle de l'extraction à froid. Pour nous, avoir un moulin à huile d'olive, c'est la façon de gérer nous-mêmes la transformation de nos propres fruits et donc d'avoir la meilleure qualité possible, que ce soit en champ, sur la culture des fruits, mais aussi dans leur transformation en huile d'olive.
Pour ce qui concerne justement cette production, vous avez combien d'hectares d'oliviers ?
Alors, on a à peu près 8 hectares d'oliviers, mais dedans, on a quelques parcelles qui sont encore un peu trop jeunes pour produire et quelques parcelles qui sont aussi trop vieilles pour produire. On les garde parce qu'elles produisent encore quand même une année sur 3 ou 4. Et puis surtout parce que c'est aussi un patrimoine culturel et génétique pour la flore ici locale.
Ça présente combien d'arbres à peu près ?
On va être sur 4 500 arbres.
Ce moulin traite uniquement vos productions ou vous travaillez avec aussi d'autres producteurs ?
Dans le moulin, on va faire nos huiles, mais on va faire aussi les olives d'autres personnes. 4000 arbres, ça paraît beaucoup, mais c'est une très petite ferme quand même d'un point de vue agricole, et on n'a pas la capacité à nous-mêmes de fournir, on va dire, un moulin. Le fait de faire de la prestation de service va nous permettre d'avoir ces machines pour nous, tout en les rentabilisant, en faisant passer d'autres olives dedans. Donc c'est ce qu'on appelle de la trituration. Les personnes nous amènent leurs olives et repartent avec leur huile. Ça nous permet de rencontrer énormément de monde en local, parce qu'on va avoir aussi bien des personnes qui font 10 000 arbres qui vont nous amener leur récolte, que des personnes qui ont 5 arbres à côté de la maison, qui vont récolter 20 kilos et faire leurs 4 litres d'huile pour l'année. Le moulin à huile d'olive, c'est assez simple encore aujourd'hui. Les techniques sont restées quasiment les mêmes. Ce qui va changer, c'est surtout des petits détails qui vont permettre d'améliorer la qualité. Donc on a les olives qui vont arriver de la récolte le soir, elles seront effeuillées. Le lendemain matin, elles vont passer dans une laveuse qui va nous permettre en fait d'enlever la poussière ou l'argile qu'on a pu mettre sur les arbres pour les protéger de la mouche. Après, les olives vont être broyées dans un broyeur, donc c'est des couteaux très épais qui vont hacher complètement l'olive, qui vont hacher aussi le noyau, faire une sorte de pâte comme une tapenade avec des petits morceaux de noyau dedans. À partir de là, on n'a plus d'oxygène. La pâte va rester entièrement hors oxygène pour qu'elle ne s'oxyde pas et qu'elle ne perde pas en qualité sur l'huile après pendant la production. Une fois qu'on a cette pâte, on va la malaxer pendant environ une demi-heure pour rendre liquide l'huile d'olive. En général, elle va être solide dans les olives parce qu'il fait en dessous de 15 degrés, l'huile d'olive est solide et il faut la faire sortir des cellules de l'olive. Donc on va avoir cette phase de malaxage qui est très douce, qui va permettre en une demi-heure, en fait, à peu près, de faire sortir cette huile-là et de la rendre disponible pour l'extraction. Cette phase de malaxage est toujours la même depuis 2000 ans, à la simple différence qu'on est sans oxygène. Et puis après ça, on va ne plus passer par des presses, mais par des extractions par centrifugation. Donc là, on a une centrifugeuse. Il faut s'imaginer, en fait, une torpille qui tourne très rapidement, qui va séparer par densité. On travaille sur ce qu'on appelle un moulin de deux phases. C'est-à-dire qu'on a une seule centrifugeuse qui va séparer d'un seul coup l'huile d'olive de tout le reste. Ce qui nous permet d'avoir la meilleure qualité possible. On ne rajoute pas d'eau à l'intérieur. On ne va pas rajouter de chaleur non plus. On est obligé de tourner un peu plus doucement avec ce type de machine-là, mais par contre, on a cette qualité optimale qui est une extraction en une seule fois de l'huile d'olive par rapport à tout le reste. Une fois qu'on a extrait cette huile de l'olive-là, on a un pur jus de fruit qu'on va mettre en cuve, on va laisser la pulpe décanter pendant environ un mois, et après on va pouvoir faire la mise en bouteille. On ne fait pas de filtration, c'est ce qui nous permet d'avoir les meilleures qualités et de garder tous les arômes dans les huiles.
Vous avez plusieurs variétés ?
On travaille essentiellement avec de la variété Aglando, qui est la variété, on va dire, typique locale, qui fait partie de l'AOP. Et on a un verger en ce qu'on appelle bouteillant. C'est des arbres qui vont donner des fruits avec des olives un peu plus douces. Elles sont matures un peu plus tôt et on va faire un fruité mûr qui est très rond, très équilibré, qui va très bien se marier avec des plats assez fins. C'est une huile pour toutes les cuisines, en fait. C'est surtout le cuisinier qui va décider quelle huile il va utiliser dans quel plat. On fait essentiellement de l'huile d'olive AOP, donc Haute-Provence, qui est un fruité vert, qui est une huile avec beaucoup de corps, beaucoup de goût. Mais on va aussi faire 4 autres huiles différentes. On fait donc la fruité mûre, souvent avec de l'olive bouteillant, qui est une huile plus ronde, plus douce. 2 huiles aux agrumes. Là, on fait venir des fruits frais de Sicile, donc soit des bergamotes, soit des citrons, qu'on met dans le moulin en même temps que les olives. On presse les deux fruits ensemble, et ça donne quelque chose de très très doux et de très subtil. Et on va faire ce qu'on appelle un fruité noir ou un goût à l'ancienne. Donc ça, c'est des vieilles traditions qu'on fait aujourd'hui. On fait fermenter les olives pendant une trentaine de jours. On va les voir toutes les 6 heures pour voir où en est la fermentation, et on les triture. Et ça donne une huile avec un goût d'olive très noir. toutes ces huiles-là sont très différentes et vont se marier avec énormément de plats. Et c'est surtout le cuisinier, en fait, qui va décider s'il va la cuire ou pas.
Si l'on souhaite choisir une huile, comment conseillerez-vous de goûter ? Sur un morceau de pain, avec une cuillère ?
Avec une cuillère. Le morceau de pain est très bon, mais il va aussi donner beaucoup de goût. Donc en fait, vous allez beaucoup goûter le pain plus que l'huile. La petite cuillère, pas beaucoup d'huile, et goûtez comme si vous goûtiez un vin. En fait, il faut vraiment faire ce qu'on appelle une rétro-olfaction. Vous allez aspirer de l'air en même temps que ce que vous allez goûter, et puis là, vous allez avoir tous les arômes. Gardez bien l'huile quelques secondes dans la langue, et après, vous pouvez avaler.
Vous parliez de la mouche, protégée par l'argile, c'est-à-dire ?
La mouche de l'olive devient un problème parce que c'est un insecte qui a de moins en moins de prédateurs, il y a de moins en moins d'oiseaux, et il y a de plus en plus de cultures d'oliviers, donc il y a de plus en plus de nourriture pour elle. Donc elle va devenir de plus en plus un problème. Aujourd'hui, on a une solution en agriculture biologique qui est très bonne, qui est l'argile. C'est du kaolin, c'est ce que vous pouvez trouver en fait quand vous allez dans des cures thermales pour prendre soin de votre peau. On va pulvériser cette argile blanche sur les arbres, ça va leur donner une couleur et une texture que la mouche n'aime pas du tout. La couleur va déjà l'empêcher de reconnaître que c'est un olivier, et la texture va l'empêcher de piquer les olives. C'est quelque chose qui prend un peu de temps à mettre en place, parce qu'il faut pulvériser chaque arbre, assez limité dans le temps, parce qu'après une pluie de 40 ou 50 mm, il va falloir recommencer. Mais par contre, c'est quelque chose de 100% naturel, c'est quelque chose de pas douloureux, ni pour l'arbre, ni pour la nature, ni pour la personne qui va le mettre dessus, et c'est quelque chose qui ne se retrouvera jamais dans l'huile d'olive. Comparé à certains produits chimiques ou à certains autres types de piégeage, par exemple de mouches, qui sont là aussi très contraignants, c'est quand même une technique qui va nous permettre aujourd'hui de se battre contre cette mouche et de pouvoir résister aux attaques.
Quand démarre la récolte pour cette année ?
La récolte a démarré le 26 octobre, donc on est en plein dedans. Elle va durer, je pense, jusqu'à la fin décembre. On va bien voir un peu comment ça se passe cette année.
Si l'on souhaite vous contacter, acheter vos produits, et notamment évidemment l'huile.
Pour acheter nos produits, vous pouvez soit venir ici directement à la ferme pour faire des visites, des dégustations et acheter nos produits, ou vous pouvez aller sur notre site internet, on fait les ventes par correspondance. Notre adresse internet, c'est provence-huile-olive.com. Puis pour nous amener vos olives, il suffit de venir, pas besoin de rendez-vous. Vous venez, vous nous apportez vos olives et puis vous repartez avec votre huile une semaine plus tard.
Vous êtes entre Valensole et Oraison ?
C'est ça, on est dans un petit coin du plateau de Valensole. Il est un peu perdu, mais c'est aussi son avantage, c'est que on est un peu dans un coin qui reste encore très sauvage. Et donc c'est un coin assez joli, on arrive à cultiver des arbres ici de manière assez autonome.
Retour en plateau sur Fréquence Mistral avec cette émission particulière qui est spécialisée et consacrée à l'olive et l'oléiculture. Une question pour Alain Roux. Cet apport de population dans les années 60 est aujourd'hui parfaitement intégré par des familles et structures plus anciennes comme celles que vous représentez par exemple.
Oui, vous entendez des oléiculteurs, des jeunes qui maintenant commencent à apparaître par rapport à leurs parents. Oui.
C'est ça, ou leurs grands-parents,
ou leurs grands-parents.
Des générations
donc,
précédentes.
C'est même souvent des gens qui ont créé des moulins. On voit, il y a la famille Pinatel, il y a la famille Chabot pour le moulin Bonaventure, et puis d'autres moulins qui ont apparu sur notre territoire.
Ce sont des gens aussi qui ont apporté une certaine, entre guillemets, intelligence, avec des connaissances particulières qui n'étaient pas forcément issues du territoire ici même.
Oui, c'est vrai. La question est un peu plus complexe là. Oui, c'est sûr que ces personnes-là se sont investies dans l'olivier et ont développé avec des connaissances plus récentes. C'est vrai que l'olivier, en l'espace de, je le vois, 10 ans, les connaissances sont énormément améliorées pour lutter contre les maladies, les prédateurs. On a subi pendant des dizaines d'années la même évolution et puis là, ça a explosé. Bon, il faut dire aussi qu'on est quand même secondé par France Lafidol, qui est devenue France Olive et qui nous aide beaucoup dans ce domaine-là.
Alors, je signale d'ailleurs, puisque vous êtes le président du groupement des oléiculteurs, qu'il y a 2 ans, vous avez publié un magnifique livre qui est une bible quasiment sur l'olivier, sur l'oléiculture. Il y a des tas de connaissances sur l'histoire, la culture, les sciences et évidemment des interviews et avec des personnes qui s'expriment. C'est un livre qu'on trouve encore dans le commerce.
Oui, Alain, il est toujours vendu. Vous pouvez même l'acheter au groupement sur notre site. Alors c'est un livre exceptionnel, hein. Ça a été fait par différentes personnes et le chef d'orchestre était Christian Pinatel. C'est devenu, je ne vous cache pas, une bible.
et c'est vrai que c'est passionnant. Moi, je me suis plongé dedans pour retravailler sur cette émission, et c'est un plaisir parce qu'on a par exemple des connaissances historiques sur le recensement des pieds d'olivier qu'on avait dans notre département dans les années 1800, 1900, et puis ce creux qu'on a eu juste après la Première Guerre et ce renouveau depuis les années 80-90 à peu près. Donc un livre que l'on trouve, qui s'appelle tout simplement L'Olivier, me semble-t-il.
L'Olivier de Haute-Provence.
L'Olivier de Haute-Provence, pour ne pas confondre avec celui de Sicile, par exemple, entre autres. Alors, après la récolte et la transformation, il y a d'autres magiciens qui prennent le relais. En ce qui concerne l'olive, les chefs cuisiniers utilisent l'olive et son huile pour agrémenter leurs plats et recettes. On peut citer, bien sûr, Auguste Escoffier, entre autres, mais aussi plus près de nous, Robert Le Bozec, infatigable défenseur du terroir provençal. Nous avons rendu visite à Pierre Grain, le patron du Bistronomique à Manosque. Il représente bien ces tables qui valorisent ce produit local d'exception. Pierre Grain, vous êtes restaurateur à Manosque, au Bistronomique. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'huile d'olive ?
L'huile d'olive, pour nous, c'est quand même un produit d'exception, un produit de notre région, que l'on travaille dans tous les sens, soit en pâtisserie, en cuisine, on la met en valeur au maximum, notamment avec un pain d'accueil dès l'arrivée des clients, pour leur faire découvrir justement notre pain qui a été fait à base d'huile d'olive, de citron confit, qui vont tremper dans une autre huile d'olive et leur faire sentir vraiment toutes les saveurs de l'huile d'olive d'un petit récoltant.
C'est un ingrédient essentiel pour vous, pour vos tables ?
C'est primordial. On cuisine qu'à l'huile d'olive, on utilise très peu le beurre. L'huile d'olive, ça fait partie de nos gènes. On l'utilise vraiment sur toute façon, on en fait des glaces, on en fait, à part la tapenade, bien sûr, qui est connue dans le monde entier. Nous, on la transforme, on en fait des poudres, on la fait sécher, on s'en sert de condiments, on en fait des chutneys, des confitures. C'est à l'infini, on fait l'huile d'olive, elle se marie très bien aussi avec les agrumes, notamment le citron, l'orange et la vanille aussi, qui se marie très bien avec l'huile d'olive.
Vous faites preuve donc d'inventivité pour inventer justement ces recettes.
Moi, je pense qu'on n'a rien inventé. On reprend des choses, on les retravaille à notre façon. Mais réinventer, je ne pense pas.
Vous avez une belle table ici sur Manosque. Comment est-ce que vous faites pour sensibiliser votre clientèle aux qualités de l'huile d'olive et de ses produits dérivés ?
C'est à nous déjà à leur transmettre et à leur faire apprécier l'huile d'olive en leur faisant découvrir justement les saveurs. C'est de la glando, leur dire voilà, il y a un petit retour de pommes vertes, un petit goût d'artichaut, et on essaie de leur faire sentir ceci, ou si c'est un goût de fraise, notamment sur l'huile d'olive, c'est la tanche, que m'avait fait découvrir Monsieur Le Bozec. On essaie de leur transmettre ce que l'on connaît à notre juste valeur. Quoi.
Quels sont vos fournisseurs ?
Alors fournisseurs, en huile d'olive, on a le Moulin de l'Olivette, sur une huile qui est assez verte, on va dire, avec beaucoup de parfum. J'ai une autre huile d'olive qui est beaucoup plus mûre, qu'on sert sur des assaisonnements, notamment beaucoup sur des salades et des préparations tièdes ou froides. Et là, je me sers chez Monsieur Jean-Luc Monteil, au domaine des bergeries. C'est à Montfort.
Avec l'utilisation de l'huile d'olive dans votre cuisine, vous avez aussi, je suppose, l'utilisation de l'olive en tant que fruit lui-même.
Oui, aussi, oui, bien sûr. On travaille l'olive un peu sur toutes les formes, sans trop la trafiquer non plus. Hein. On n'a rien besoin de faire. Quand c'est un bon produit, il suffit juste de la dénoyauter ou de la couper, en mettre des petits morceaux, des éclats sur un plat pour justement apporter encore beaucoup de goût et de saveur.
Pierre Grain, vous auriez une recette un peu particulière à nous présenter avec de l'huile d'olive ?
Il y en a plusieurs de recettes. On en a des glacées, on en a des froides, on en a des chaudes. Mais là, je vous en donne une qui est toute simple pour la ménagère. C'est une recette croustillante à base de parmesan, d'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive, un petit peu de farine et un petit peu de sel, tout simplement. C'est un mélange, c'est tout simple à faire. On peut la façonner, moi je l'utilise au restaurant dans mes amuse-bouches. On représente une feuille de chêne qu'on étale à l'aide d'un chablon. Passé cuisson au four, on a quelque chose de très croustillant avec bien l'arôme d'huile d'olive et de parmesan.
À tester donc en apéritif cette huile au parmesan et huile d'olive. Nous accueillons notre deuxième invité. Bonjour Alexis Bertuca.
Bonjour François.
Vous êtes en charge de l'écomusée de l'Olivier à Volx, une bâtisse magnifique qui rappelle combien sont importants l'arbre et les hommes qui l'ont exploité. Et c'est un musée qui est à l'initiative d'un basalpin, chef d'entreprise visionnaire, Olivier Bossan, à qui l'on doit notamment la création de l'Occitane. Que trouve-t-on dans votre musée ?
Alors l'écomusée, c'est déjà un lieu particulier parce que c'est un ancien four à chaux. Donc le bâtiment est magnifique au pied de la roche amère à Volx. Donc cet ancien bâtiment qui a servi d'ailleurs à l'Occitane, hein, on a trouvé du savon. Depuis 2006, on y trouve une collection autour de l'olivier en Méditerranée et en Haute-Provence notamment, autour de toute son utilisation possible, que ce soit dans les religions monothéistes par exemple, puisque les trois religions partagent la culture de l'olivier, bien entendu symboliquement, et ça c'est important de le rappeler je pense, et puis bien entendu dans tous ses usages, la cosmétique, l'alimentaire, etc. Et puis on a des vidéos qui nous permettent de découvrir comment, dans notre pays ou dans d'autres, on taille, on récolte, puisque cet arbre il est vraiment l'emblème de la Méditerranée, ce que nous partageons tous ensemble.
Il y a des expositions, il y a des manifestations particulières.
Il y a une collection permanente qui est visible en accès libre et gratuit toute l'année, hors Covid, bien entendu. Et ensuite, on fait des expositions, on fait des événements. On a fait un événement très récemment autour de l'arbre, justement. On a fait un apéro littéraire, un karaoké qui était super sympa, où on a bien entendu parlé de l'olivier, mais pas que, hein, de tous les arbres de la Méditerranée. Donc on fait vivre ce lieu autour d'expositions qui peuvent être comme celle-ci, et aussi avec un petit restaurant qui s'appelle le Petit Ribier, qui est d'ailleurs une variété d'olivier du Haut-Var, où des amis à nous font vivre cette cuisine méditerranéenne et nature et fraîche.
Il y a un succès au niveau du public justement de cette racine particulière qu'est l'olivier et évidemment de cet aspect gastronomique lié à l'olive.
C'est le seul lieu qui existe comme ça dans notre département, autour de l'olivier en tant que tel. Donc on ne reçoit pas énormément de visiteurs, on reçoit de 3 000 à 5 000 visiteurs par an, ce qui est modeste, mais pour nous exceptionnel déjà. On est dans un lieu particulier entre Manosque et Fort-Calquier, donc Volx, c'est une commune où on peut faire de l'escalade, une commune où on ne va pas spécifiquement pour un lieu touristique. Donc on a créé là un lieu d'attraction quand même, sur une destination. Les gens s'y arrêtent et trouvent un lieu un peu particulier, hybride en fait. Vous êtes entre deux choses. Le lieu est splendide, vraiment, je vous recommande. La salle principale est magnifique, avec un lustre splendide qui rappelle Sainte-Sophie, hein, la mosquée. Et du coup, quand vous êtes dans ce lieu, déjà, il y a une atmosphère particulière. Et ensuite, du coup, les gens, ils viennent pour découvrir tout ce qui est cette civilisation de l'olivier, donc sa culture, mais aussi sa culture dans le sens large. Et ensuite, on peut bien sûr déguster des huiles d'olive dans notre petite boutique à côté, et voir un peu la variété des fruités, par exemple, les fruités verts, fruités noirs, fruités mûrs. Et là, les gens partent enchantés, ouais.
Alors comment est-ce que vous vous positionnez? Vous êtes un outil touristique, patrimonial, gastronomique ou tout ça à la fois?
Eh bien tout ça à la fois, François, voilà, hybride. On veut être ça, c'est-à-dire que nous sommes un élément touristique privé, déjà hein, c'est nous qui le portons tout seul, hein, le groupe Territoire de Provence. Et on veut être une référence entre guillemets dans ce monde-là, une possibilité de venir découvrir la civilisation de l'olivier, mais aussi de faire autre chose. Par exemple, le groupement des oliculteurs vient faire des réunions dans une de nos salles. On le fait aussi avec la LPO localement, puisque l'objectif, c'est d'être un acteur local au niveau touristique, écotouristique même, mais aussi dans la vie purement locale de notre département. Donc, par exemple, cet écomusée est le siège de l'association Act for Planet, une association qui agit très concrètement sur l'agroforesterie en plantant des arbres. Localement, hein, très 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 localement, et bien voilà, c'est en étant une référence ou du moins un lieu où on peut se retrouver, discuter de l'olivier bien entendu, mais pas que, puisque l'olivier est forcément à la croisée de tous nos chemins.
Il y a également toute une particularité et une puissance de cogitation autour de toute cette dynamique, des gens qui réfléchissent.
Ah oui,
et qui s'engagent.
Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent autour de l'olivier. Vous avez avec Alain quelqu'un de passionné qui est multifacette. Et c'est moi dans l'olivier, tous ceux que je rencontre, ils sont plutôt comme ça. À la fois Laurent Bélorger, dont on a parlé récemment pour France Olive, par exemple, ce sont des gens qui cogitent autour de l'olivier, mais autour de l'agriculture en général, puisque souvent les gens ont des multifacettes. On parlait de Christian Pinatel et André Pinatel, son père qui a relancé le plan de l'olive il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il est sur l'amande, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a des ponts, des transverses, on est tous connectés à ce monde agricole, tous ensemble, pour cogiter et le faire s'améliorer.
Et tous défenseurs de ce territoire magnifique et que vous magnifiez aussi de votre côté. C'est une bonne chose. Une question, Alexis, particulière. Quel est le public qui fréquente votre établissement? Ce sont des régionaux, des Français, des étrangers?
Alors, les tous, en fait. Donc, c'est un public local. Des amis qui viennent en vacances chez nous, dans notre magnifique département, vont pouvoir venir visiter avec nous ce lieu-là. Ensuite, il y a les gens qui viennent d'ailleurs, des étrangers aussi, et aussi des publics scolaires. Il faut vraiment aussi penser à ce public-là, le public local ou étranger, pour leur expliquer ce que c'est cet arbre-là, cet arbre magnifique. Donc, on est ouvert à tous les publics. On essaye de faire des visites guidées quand on nous le demande. Après, on est une toute petite structure, donc on le fait comme on peut. Mais on essaye d'avoir un public très diversifié, et c'est ce qu'on arrive à faire.
Et vous avez, comme beaucoup d'autres structures dans le département, je pense notamment au Moulin de l'Olivette, une boutique particulière, et vous proposez des produits spéciaux et qui sont qui donnent vraiment de la couleur à votre établissement.
C'est une boutique très particulière, hein, qui est chapeautée par Territoire de Provence et le Petit Ribier, où il n'y a vraiment que des productions locales, donc des huiles d'olive qui sont très très localisées autour bien sûr de l'écomusée, mais aussi des tapenades qui sont faites pas loin, les pâtés de la maison de Thelme à Oraison, la chocolaterie Leblanc à Bannon, les calissons d'Aix.
Des boissons
locales, ouais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a le brasseur de Volx qui vend des bières de chez nous. Donc on voulait avoir un lieu de référence, un lieu où on peut croiser toutes les petites productions qui sont dans un périmètre très très proche, à 50 km au maximum, et où on peut retrouver directement dans la boutique, les déguster et ensuite les emmener chez soi.
L'écomusée de l'Olivier de Volx est sur la vieille route de Volx à Volx. Si vous passez dans ce magnifique village, n'hésitez pas à faire ce tout petit détour de quelques mètres, mais ça vaut vraiment le coup. Et puis, allez voir, et puis vous parlerez aussi avec Fanfi et Véro, vos amis du Petit Ribier. Ce sont des passionnés aussi et des gastronomes convaincus également. On arrive à la fin de cette émission, messieurs. Je vais vous demander un petit mot de conclusion. Alors, on va commencer par Alain Roux, qui n'a pas parlé depuis un moment. Salut démange. Alain.
Oui. Bon, la conclusion, moi, c'est surtout pour l'avenir. C'est vrai qu'il y a quelques années, je voyais pas trop d'évolution. Les jeunes sont quand même un peu absents, mais ça y est, il y a une nouvelle génération qui apparaît dans les moulins. Et moi, ça me fait énormément plaisir, parce qu'il faut revaloriser notre huile de nouveau. Parler de notre AOC, c'est vrai qu'il faut en parler, parce qu'on est la plus petite AOC de France. Mais là, on a du caractère, on est reconnu comme une huile de qualité. Donc, l'avenir, il faut être confiant, et je pense qu'il y aura des jeunes qui vont apparaître, qui vont émerger.
On a une ouverture là, générationnelle, qui est intéressante et importante, et puis qui va dans le bon sens. D'ailleurs, c'est un homme d'une autre génération que je m'adresse, Alexis Bertuca. Votre mot de conclusion par rapport à vos interventions, est-ce que vous avez entendu dans cette émission ?
Je rejoins la sagesse d'Alain. Donc, de toute façon, on est tous des héritiers de quelque chose, on va essayer d'améliorer les choses. Mais surtout, je vous dis juste que c'est la récolte qui commence en ce moment. La glande d'eau commence à être récoltée, donc je vais aller chez ma mère pour aller récolter ces olives et vous dire que voilà, c'est une période magnifique, hein, quand on a la chance de pouvoir les récolter, les olives à la main, c'est vraiment quelque chose à partager. Donc si vous avez des amis qui ont des olives, allez récolter avec eux, vous allez voir, vous allez partager d'autres choses, d'autres expériences.
Et c'est un petit peu comme les vendanges d'ailleurs, c'est assez sympathique.
C'est exactement, ouais. C'est cette convivialité qu'on retrouve autour de l'arbre, autour de cet arbre magnifique, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Alexis Bertuca, à très bientôt. Merci aussi Alain Roux, à bientôt. Et puis cultiver l'olive, c'est une bonne chose, et utiliser des bonnes huiles d'olive. L'adjectif est bien choisi également. Merci Olivier à la régie, et puis à bientôt.
À bientôt François.